Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noaille.
Il dévoile leur amitié en parlant de tous les sujets de l'existence. Qui a décidé que, parvenu à un malentendu radical, les hommes et les femmes n'avaient plus rien à se dire? Voici la preuve du contraire. Depuis plus de 20 ans, fin d'après-midi, un des plus grands écrivains français converse avec une journaliste de renom. Ils abordent dans une conversation qui n'est pas près de finir les sujets qui préoccupent la société de leur temps, leur obsession particulière, tout y passe. L'amitié, l'amour, la fidélité, la littérature, la sexualité, la politique et la religion. Entrons donc pas à pas dans cette conversation infinie avec ces deux invités que j'ai la joie de recevoir aujourd'hui. Allez, j'allais dire honneur aux dames aujourd'hui. Josanne Savigno, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes évidemment journaliste. Vous avez dirigé Le Monde des Livres, supplément hebdomadaire du Monde de 1991 à 2005. Vous avez été rédactrice en chef culture jusqu'en 2002, chroniqueuse jusqu'en 2012, puis responsable de M, le magazine du Monde de 2012 à 2004.
Pas M, c'était le mensuel. C'était le mensuel du Monde, voilà. Qui n'existe plus.
Voilà, donc c'est encore une faute de biographie, mais c'est pas grave. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont deux biographies notoires, celle de Marguerite Yourcenar et de Carson McCullers. Et vous avez publié en 2014 avec Philippe Roth chez Gallimard, évidemment. Philippe Roth qui nous a quittés il y a peu de temps.
Presque un an, pas tout à fait.
Une belle amitié aussi avec Philippe Roth. Philippe Solers, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue, évidemment. J'allais dire, comme mes confrères, c'est difficile de vous représenter, on ne vous présente plus. Mais il faut le faire quand même.
Et oui, il faut toujours représenter. Je sais que la représentation est très en question, mais comme tout s'oublie très vite, vous savez, déjà il est très tard, donc on ne sait plus qui je suis. Mais
non.
En fait, je vais parler en tant qu'inconnu. Voilà, ça me convient.
Ah non, je l'ai déjà dit, vous êtes l'un des plus évidemment célèbres écrivains français. Vous avez publié depuis 58 des dizaines de romans, d'essais chez Gallimard.
Oh, oui.
Vous allez publier bientôt un 80.
Je sais pas que ça.
80 et quelques. Un nouveau roman.
Il n'y a pas 80 romans, mais il y a plus de 80 livres, à mon avis, tout.
Ça.
Et là, c'est un roman, le nouveau. C'est
on
ça
voit, Josiane Savigno, vous connaissez bien quand même.
Je travaille un peu.
Elle a tendance à lire. Et à savoir lire de très près.
Ah, et ça vous tient à cœur. On
grâce
verra.
À elle, j'ai pu écrire pendant 18 ans. Dans le monde des livres, toujours sur des sujets qui m'intéressaient beaucoup, au point de faire un recueil qui s'appelle « La guerre du goût ». C'est un recueil pendant 18 ans. Le Monde, aujourd'hui, je n'existe plus pour ce journal, mais il faut dire que j'y étais si souvent que je comprends qu'ils aient tendance, en effet, à m'oublier. Cela dit, grâce à Josiane Savigno, ici présente, j'ai pu écrire ce que je voulais sur la littérature et l'art dans le monde des livres. Et je viens de recevoir, ça a fait un recueil qui s'appelle « La guerre du goût ». Et dont je viens de recevoir l'édition chinoise. Vous voyez comme les choses sont
bizarres.
Et on sait
combien la Chine vous tient à cœur. Et la Chine est présente dans cet ouvrage,
voilà,
que vous écrivez à quatre mains, une conversation infinie, parue aux éditions Bayard. Josiane Savigno, cette conversation est finie, elle aurait pu rester intime entre vous deux.
Oui, mais il y a des éditeurs à Paris. En fait, c'est parti d'une sorte de provocation. C'est-à-dire que le chef d'orchestre Michel Tabachnik, que vous connaissez sans doute, qu'on connaît un peu, un jour s'est approché de notre table et a dit « Mais qu'est-ce que vous pouvez bien trouver à vous raconter tous les jours ?»
Tous les jours pendant plus de 20 ans.
Alors, ouais, plus. Et ça nous a fait rire, évidemment, ça nous a fait rire. Et un jour, on prenait un verre avec Lydia Breda, qui a une collection chez Bayard, et Frédéric Boyer, qui à l'époque était directeur littéraire de Bayard. Maintenant, il dirige Paul, comme vous savez sans doute, après la mort de Paul Tchaïkovski-Laurence. Et on leur a raconté ça comme une plaisanterie. Et tous les deux, ils ont dit, c'est vrai, mais pourquoi vous ne mettez pas par écrit ce que vous vous racontez
ils
tous les jours?
Oui.
Et puis on a dit, pourquoi pas.
Vous preniez des notes, Josiane Savigno?
Non, mais après, j'en ai pris. Après, on a refait des... Parce qu'au début, quand j'ai proposé quelque chose à Lydia Breda, ils ont trouvé, sans doute à cause de ce que vous disiez tout à l'heure, mon obsession pour l'œuvre de Solers, que c'était trop sur son œuvre. Donc ils ont dit, non, il faut qu'il y ait des thèmes que vous avez cités, la fidélité, l'amour, etc. Bon, j'ai quand même parlé de livres, parce que moi, je ne peux pas parler avec un écrivain comme si, je ne sais pas, il allait au salon de l'agriculture demain matin.
Philippe Sellers.
C'est un livre, à mon avis, très réussi à cause de José Anne Savigno, qui a un sens de la composition, du rebondissement dans la conversation. En effet, ça avance constamment parce qu'elle écoute de très près et elle a immédiatement une autre question à poser et elle n'est pas tout à fait d'accord et même parfois pas du tout avec ce que je dis. Et c'est là où ça devient intéressant.
C'est tout l'intérêt.
Ça devient intéressant parce que le désaccord qui devient quand même un accord dans le désaccord, c'est quand même très intéressant, d'autant plus qu'on a désormais, vous avez une propagande constante, à savoir que les femmes refusent tout des hommes ou à peu près, et que les hommes se filent doux parce qu'ils ont peur, d'être dénoncés.
Et d'ailleurs,
c'est très très justifié parce que en effet, depuis combien de millénaires se comportent-ils mal? Voilà. Donc, pour une fois, vous avez deux personnes civilisées de sexes différents, du moins, c'est ce
en apparence.
Ouais, voilà, et qui peuvent échanger.
Qui échangent en toute liberté.
D'un bord à l'autre de la rive et du fleuve, du temps qui devrait en principe les séparer. Je suis très contre la séparation qui est le problème constant. Qui veut diviser? Eh bien, puisque nous sommes à Radio Notre-Dame, je vais le citer son nom, n'est-ce pas? Le prince de ce monde, homicide dès le commencement, et qui veut diviser, prince du mensonge, prince, et qui veut diviser pour régner. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire avec une virtuosité qui me laisse absolument pantois. Mmh. Ça va très vite. Le diable divise. Tout est en train d'être divisé à l'intérieur même de l'Église catholique, apostolique et romaine ou post-romaine. Et puisque je suis à Radio Notre-Dame, je suis en train de prier pour l'Église catholique dans son naufrage actuel.
Mais alors, un naufrage.
Vous parliez du diable, mais vous
savez, oui, chez Bayard, vous y consacrez un chapitre,
ce qui est drôle, c'est que chez Bayard, qui est une maison d'édition catholique, comme vous savez, et ils ont, c'est le chapitre qu'ils ont préféré, c'est le diable.
Ça m'intéresse. Un chapitre sur Dieu aussi, oui. Évidemment. Ça veut dire que le diable existe, Philippe Sellers?
Ah oui, vous ne croyez pas qu'il existe?
Non, mais je vous pose la question. Parce que c'est Josiane aussi qui vous pose la question.
C'est ce que dit Baudelaire, la grande virtue, c'est la grande subtilité du diable, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Voilà.
Mm-hmm. Donc, on l'a évacué d'ailleurs de l'Église catholique pendant un certain nombre d'années.
Il ne faut pas parler du diable, il ne faut pas parler de la résurrection des corps, il ne faut pas parler de tout ça.
On a parlé du diable.
Voilà. Il ne faut pas faire peur aux enfants. Infantiliser au maximum l'être humain, s'occuper de sa reproduction technique, de plus en plus diabolique, entre guillemets. Donc, tout ça va à toute allure. Et il y a lieu quand même de garder une tête très froide par rapport à la réfrigération glaciale du diable. Le diable, contrairement à ce qu'on a imaginé, vit dans la glace.
Et non pas dans les flammes.
Non. Et pour ça, s'en convaincre, je demande à tous les auditeurs de vérifier ce que je suis en train de dire. Il faut lire simplement le dernier chant de l'Enfer de Dante, dont il est urgentissime de relire absolument la Divine Comédie, parce que là, vous en saurez. Et alors, il y a un pape qui m'a intéressé beaucoup, c'est Ratzinger, c'est Benoît XVI, qui, dans ses dernières homélies, ça avait attiré mon attention. J'ai écrit beaucoup sur Dante, que je connais pratiquement par cœur. Donc, il a fait un certain nombre d'homélies, et je me demandais ce qu'il avait, parce que c'était vraiment avec toujours une citation du chant 33 du paradis de Dante. Vergine madre, figlia del tuo figlio, termino fisso d'eterno consiglio. Donc, comme nous sommes à Radio Notre-Dame, je traduis en français, Vierge, mère, fille de ton fils, terme fixe d'un éternel conseil, consiglio, dessin. Qu'est-ce que c'est que devenir la mère de son fils? Je pose ça à tous les hommes s'ils ont le courage de se poser la question et comme ils ne l'ont pas, ça les laisse un petit peu embarrassés avec leur mère.
Mais alors, je reviens sur le diable parce que il y a cette phrase de Marguerite Yourcenar que j'aime beaucoup. Je l'avais interrogée elle aussi sur le diable. Est-ce que vous croyez au diable? Et sa réponse c'était qu'elle y croyait, mais que surtout tant de gens vivent dans de petits enfers variés.
Oui, ça c'est délicieux.
Les petits enfers. Mais vous n'êtes pas tout à fait d'accord, justement, Philippe Solers, avec Marguerite Yourcenar là-dessus.
Non, sur la gloire, il n'est pas d'accord.
Oui.
Ni les petits enfers.
Tant de gens. Non, mais tant de gens vivent dans de petits enfers.
Enfers variés, oui.
Ben, ça, il n'y a qu'à se retenir.
C'est la vie quotidienne.
Oui, c'est la vie quotidienne. La plupart des gens, comme on dit, vivent dans des petits enfers variés, où ils s'ennuient tellement qu'ils sont en train de sortir et aller sur les ronds-points, notamment les femmes, pour trouver des gens à qui parler.
Ouais, se rencontrer. C'est
ça, oui, c'est ça, se rencontrer. Enfin, on s'ennuie.
C'est une éternelle solitude.
Ah oui,
une solitude terrible.
Oui, terrible. Mais terrible.
C'est ça, en dehors des débordements dont on ne va pas parler ici, qui sont inadmissibles, on les connaît. Au début, je suis allée un peu parler avec des gens. Au début du mouvement, il y a ça, c'est-à-dire des gens
l'isolement
auxquels on a dit tu achètes ton petit pavillon de banlieue, tu t'endettes, tu achètes deux voitures, tu t'endettes, ton mari te quitte, tu es endetté, tu es là avec tes deux enfants, tu regardes la télévision, tu n'as pas d'amis, tu connais personne. Et tout d'un coup, ils arrivent sur les ronds-points et ils se parlent.
Beaucoup de femmes.
Il fallait en arriver là pour
se parler. C'est terrible.
Et
ils font
oui.
des crêpes ensemble et tout, ils se parlent. C'est terrible. C'est terrible.
Alors que vous, vous vous parlez tous les jours.
Bah oui, mais enfin nous, on n'est pas dans cette tragique position sociale. J'ai vu tous ces gens qui, il y a cette affaire du surendettement. C'est ce que je disais, quoi. C'est-à-dire, on s'endette pour sa voiture, on s'endette pour son pavillon. Après, il faut acheter la machine à laver, on s'endette. Ensuite, il faut acheter le lave-vaisselle, on s'endette. Et le 15
en même
du
temps,
mois,
vous vous dites, mais c'est cette amitié qui est entre vous et cette conversation infinie qui se noue autour de cette amitié, c'est ce que vous dites. Vous êtes camarades de combat. C'est ce qui vous rejoint sur ce mensonge social pour combattre aussi cette espèce de mensonge social que l'on vit actuellement à l'extrême, j'ai l'impression.
Mm-hmm. L'ennui règne. Le diable sait s'y prendre.
Et il occupe la place.
C'est un royaume. Le prince de ce monde, encore une fois. Voilà. Alors, à partir du moment où vous n'avez plus de transcendantal, et où Dieu s'est éclipsé, ou peut-être qu'il est mort, ou qu'il ne se manifeste plus, il devrait se manifester pour sauver son Église. Et c'est urgent. Mais voilà, donc il y a quelque chose qui est quand même dramatique. Vous avez 2000 ans d'histoire qui sont en train de partir en fumée, toute l'Italie, imaginez les églises, la beauté elle-même se consume. En plus, l'horizon climatique vous fait que votre planète est en train probablement d'exploser. Donc comment ne pas être déprimé? Le grand écrivain de cette dépression...
Oh, c'est Newman. Ouais. Michel Houellebecq.
Et je recommande sa lecture, comme j'ai recommandé celle de Dante, et évidemment je ne vais pas comparer l'écrivain que je vais citer à Dante, le pauvre, il serait écrasé. Non, mais c'est quand même un très bon roman, c'est Sérotonine de Michel Houellebecq, qui arrive exactement à l'heure des Gilets jaunes et de la misère française, et il est là tout à fait en prise directe avec la dépression nationale.
Josiane Savigno, vous n'êtes pas tout à fait d'accord là-dessus.
Non, mais j'aime beaucoup Michel Houellebecq. J'ai défendu des livres de Michel Houellebecq. Je trouve qu'il y a d'excellents livres de Michel Houellebecq. Le premier, d'ailleurs, Extension du domaine de la lutte, est très très bon. Plateforme, qui a été assez négligée, qui est un récit bien clos,
très bon, et
très bien. Moi, j'ai assez aimé La possibilité d'une île. J'ai pas beaucoup aimé La carte et le territoire. Pas tant que ça, Les particules élémentaires. Soumission, idéologiquement, je suis évidemment pas du tout d'accord avec ce qu'il propose, mais je trouve qu'il y avait un projet. Et Sérotonine, bon, c'est vrai qu'il y a, comme dit Solers, il y a un projet, mais le projet, c'est un non-projet. C'est la déprime du mâle occidental de 60 ans. Et vraiment, ça me fatigue, quoi. Ça
tombe presque dans le néant.
Ça me fatigue,
Philippe Solers.
Le néant a quelque chose.
On est anéanti.
Ça me fait rire, moi ça me fait pas rire.
Je vais vous dire pourquoi.
Non, ça fait pas vraiment rire.
Permettez-moi de faire une toute petite remarque philosophique. On est anéanti parce qu'on ne prend pas au sérieux le néant. Or, si vous voulez m'expliquer la différence qu'il y a entre l'être et le néant, comme dit un philosophe fameux qui s'appelle Hegel, vous allez me l'expliquer, vous allez voir que c'est très compliqué, et que quand saint Paul perd la vue, et tout à coup il voit le néant, c'est-à-dire qu'il voit Dieu, enfin. Donc il faut être très familier du néant pour tenir le coup. Sinon, on est dans le négatif, la négativité, la négation, ce qui est en train d'arriver, et on ne pense pas le néant.
Mais justement, Houellebecq est dedans.
Moi, avec le néant, néant. Je me sens, très bien avec le néant.
Mais Houellebecq ne pense pas le néant, il est dans la négativité dont vous parlez.
Vous sentez très bien dans le néant parce que vous avez ce sens de la transcendance.
Parce que j'ai l'être.
L'être.
Du même coup. En même temps. Voilà. Le néant, l'être. Encore une fois, si vous arrivez à me démontrer que la différence qu'il y a...
Je crois qu'il en faudrait encore plusieurs heures pour vous.
Voilà. Ah non, mais ça n'est pas compris. Mais c'est ça le nihilisme, c'est de ne pas prendre au sérieux le néant. Du coup, il infiltre tout. Et vous êtes dans la négation, la négation, la négation.
Mais Houellebecq est nihiliste, on est bien d'accord. Houellebecq est nihiliste.
Oui, bien sûr, c'est un nihiliste actif. C'est d'où son intérêt. Oui, oui, absolument.
J'imagine bien vos conversations.
Il veut absolument vous déprimer, vous résister, c'est bien. Mais enfin, vous êtes pratiquement la seule à résister vraiment, puisque 320 000 exemplaires, tirage, etc. Donc le chiffre est là pour prouver l'impact.
Oui, mais 320 000 exemplaires vendus, ce n'est pas 320 000 exemplaires lus.
Eh bien,
ça sera un sujet tout à l'heure. On va poursuivre cette conversation infinie autour de toutes ces thématiques qui vous animent tous les deux. On se retrouve juste après cette première pause.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
Monsieur et Madame Martin ont leur robinet qui fuit. Ils perdent 5 litres d'eau par heure, sachant qu'un litre d'eau coûte...
Monsieur, j'ai la solution.
Déjà ?
Ben oui, faut qu'ils appellent plombier.com.
Plombier.com ? Bravo, Kevin. Ça, c'est un problème résolu.
Une fuite d'eau, plombier.com. Un évier bouché, plombier.com. Votre chaudière est en panne, plombier.com. Déplacement, une heure de main-d'œuvre, petite fourniture est garantie à partir de 149 euros.
Plombier.com, plombier.com.
Laissez le froid et le bruit dehors et ne laissez entrer que la lumière.
Avec la Maison de la Fenêtre, gagnez en confort de vie avec des fenêtres haute performance en bois, PVC ou aluminium.
Volets roulants, portes, stores et fenêtres. Avec la Maison de la Fenêtre, valorisez votre patrimoine, faites des économies d'énergie et profitez des nouveaux crédits d'impôt valables jusqu'au 30 juin.
La Maison de la Fenêtre, à Villejuif, 01 42 11 03 03.
La Maison de la Fenêtre, certifié Calibat et RGE.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Pour que Radio Notre-Dame touche le plus grand nombre d'auditeurs et remplisse sa mission, nous devons en faire un média du 21e siècle. C'est pourquoi, en plus des ondes FM, nous devons renforcer notre présence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Tout cela implique d'investir dans de nouveaux outils. Pour nous aider à faire de Radio Notre-Dame un outil d'évangélisation moderne, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e et sur notre site Internet, bien sûr. Merci.
En quête de sens, Sophie Noailles.
Allez, une vraie joie aujourd'hui pour cette conversation infinie entre Philippe Solers et Josiane Savigno. Une conversation infinie qui vient de paraître aux éditions Bayard. On voit que tous les deux, vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ça, c'est ce qui fait toute la saveur, j'allais dire toute la sève, entre vous, entre la conversation que vous pouvez avoir depuis une vingtaine d'années. Parce que voilà, vous découvrez le livre, vous en parlez. C'est une conversation qui s'enrichit au fur et à mesure. Il n'y a pas d'ennui.
Je crois qu'on est d'accord sur des choses fondamentales. Et puis, moi, j'ai beaucoup forcément appris parce que Solaire, c'est une espèce de bibliothèque ambulante. Donc, parfois, il me fait des interros. Quand il me fait des interros sur son œuvre, en général, je m'en tire bien. Je m'en tire bien. Comment s'appelait la narratrice de Mande ? D'accord. Mais quand il me fait une interro sur la Bible, là, c'est catastrophique parce que je suis une très mauvaise lectrice de la Bible. Je suis un culte, finalement. Et lui, alors qu'il commence à me faire une interro, c'est qui, machin ? Et je dis, je sais pas. Ah si, Jonas, ça doit être le mec qu'on a trouvé dans une baleine. mais ça reste un peu basique. Alors évidemment, il me fait un développement qui m'apprend quelque chose.
Ouais, donc tout à l'heure, on a parlé du diable, évidemment, puis il y a un chapitre qui est consacré à Dieu, forcément. Et puis, vous parlez de l'Église catholique, parce que vous avez une vénération, un amour pour l'Église catholique, Philippe Solers.
Oui, parce que c'est mon enfance. Je suis fidèle à mon enfance, c'est-à-dire que j'ai eu grâce au rituel catholique, accès, vous savez que c'est comme Proust qui est à l'église de Saint-Hilaire, voilà. Alors il y a des vitraux, alors il y a des fleurs, alors il y a
des sensations.
Il y a des sensations multiples, il y a de la musique, il y a des fleurs, c'est beau. Alors on est, voilà, c'est tout. Donc après, c'est confirmé ça en Italie, parce que si vous allez en Italie, vous êtes tombé de merveille en merveille.
Et là, à Venise notamment, mais
Venise notamment.
Dans l'arrière-cour de Venise.
Oui, non. Bon, voilà. Donc je voudrais insister sur le fait que si on peut se parler, Joseph Fillon et moi, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Je n'ai jamais, sauf alors les obstacles, les ennuis sociaux, alors, ils sont légion, ouais. Hein, comme le diable. mais on ne s'ennuie pas. Alors, quelqu'un qui ne s'ennuie pas avec soi-même peut en effet rencontrer des camarades de combat qui ne s'ennuient pas non plus. Et à ce moment-là, on peut parler de la façon de résister à l'ennui social.
Parce que ce qui vous lie aussi, c'est une liberté inconditionnelle. Oui. C'est ça qui fait aussi qu'il y a une connivence entre vous.
Au moins on essaie. Moi, je suis très attachée. Enfin, je suis devenue ce que je suis grâce à la lecture d'une femme qui s'appelle Simone de Beauvoir et qui m'a expliqué que, quel que soit le milieu social auquel on appartient, parce que je n'étais pas du tout de son milieu social, j'étais un milieu social plus proche de celui d'Annie Ernaux que de celui de Simone de Beauvoir. Mais sa leçon pour moi, c'est quel que soit le milieu auquel on appartient, absolument, il faut s'en arracher pour construire sa liberté.
C'est ce que vous avez fait, Josiane Savignon.
J'ai essayé. C'est pas toujours réussi, mais j'ai essayé. Mais je voudrais revenir sur l'Église catholique, puisque je suis d'origine catholique, comme on dit. Et j'ai eu ma période, jeunesse étudiante chrétienne, etc. Et puis, bon, ça m'a un peu quitté. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense que quand on est d'origine catholique, on peut prendre par exemple Leonardo Sciascia, qui a beaucoup critiqué l'Église catholique, mais qui s'est fait été enterré à l'église. Je crois que ces enterrements laïcs sans rituel, c'est intolérable. Alors, si on n'est pas catholique, il y a autre chose. Il y a le kaddish, il y a d'autres rituels. Mais ne pas partir, c'est pour les gens qui sont vivants plutôt. Ne pas accompagner quelqu'un avec un rituel, c'est épouvantable. Ces enterrements laïcs sont affreux.
Cette disparition de rituels, justement, qui vous inquiète aussi, Philippe Sellers.
C'est pas que ça m'inquiète, ça me terrifie. C'est-à-dire que si vous prenez tout à la légère, c'est-à-dire que la mort, ce sont des cendres, que la reproduction humaine, ce sont des ovocytes et des spermatozoïdes, vous entrez dans un monde dominé par la technique et sortez de là que je m'y mette, et tout le monde est remplaçable et plus personne n'a le temps d'avoir une vie. C'est terrifiant. Si vous êtes un écrivain, c'est quand même un artiste. Donc pour qui chaque moment compte, chaque rencontre est importante, notre entretien est important au moment où je vous parle. Donc, si vivre, ça devient uniquement une routine mécanisée et technique, là, il y a de quoi, évidemment, être très, 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 pas inquiet, terrifié.
Oui, moi, je crois que j'ai changé d'avis parce qu'on avait souvent cette discussion avec Sellers qui dit « Mon squelette a le droit de penser, donc pas de crémation, etc. » Moi, j'avais une idée, bon, c'est plus facile pour les autres et tout. Et puis finalement, j'ai une amie extrêmement proche qui était 35 ans d'amitié, qui est morte brutalement. Et je me suis retrouvée dans ce crématorium de La Rochelle effroyable. Et on m'a donné ensuite un petit paquet qui était 35 ans de ma vie. Et j'étais tellement tétanisée que j'avais même plus d'émotion. Et c'est des mois après où mon ancienne assistante au monde, une fille absolument formidable qui est morte d'un cancer, qui était d'une grande famille italienne catholique, et il y a eu un rituel à Saint-Médard. Et c'est là que j'ai pu être émue pour la mort de mon amie, parce qu'il y avait ce rituel-là, catholique.
Parce que là, on est dans quelqu'un d'autre. On tombe dans le néant.
Non, c'est la mort.
La disparition.
Le mourir. Voilà, oui, non. Ça, c'est...
La négation du corps, la négation de
tout. Regardez Karl Lagerfeld qui ne veut même pas d'obsèques, rien du tout, et qui dit à la poubelle, mais comment on peut se considérer comme ça et avoir eu la vie qu'il a eue.
Ça veut dire qu'on se déteste.
C'est terrible, en fait.
Il ne s'est pas aimé.
C'est plus que ça, c'est une négation de l'être, comme vous disiez.
C'est une négation de la merveille qui devrait être considérée, c'est-à-dire le corps humain.
Parce que Lagerfeld, c'est pire que la crémation, c'est aucune cérémonie, c'est-à-dire la crémation, la poubelle.
Peut-être pour son chat.
Bah, pour son chat qui va manger ses cendres, vous croyez ? Non, un chat très très riche.
Mais non, c'est
un chat richissime.
C'est très étonnant de voir qu'il y a une telle détestation de soi, et c'est pour ça que je me suis permis de dire quelle était la parole de l'Évangile à l'envers d'aujourd'hui. Tu haïras ton prochain comme toi-même. Les gens se haïssent.
On est dans
eux-mêmes.
Cette haine aujourd'hui.
Oui, je la sens.
Ah oui, il y a de la haine aujourd'hui.
Constamment. Oui. Donc c'est très... Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un vœu dont nous savons désormais qu'il était pieux. Mais il n'existe plus. Il y a une sorte de détestation de tout le monde pour tout le monde. C'est palpable, vous savez.
Il y a eu une excellente tribune d'Alain Duhamel, qui est un bon analyste de la vie politique française depuis longtemps. Il a une chronique dans Libération le jeudi. Et l'autre jour, il a fait un article qui m'a beaucoup intéressé puisqu'il parlait de mai 68 et des Gilets jaunes. Et il disait, mai 68, c'était quand même... plus violent, au fond, c'était pas la violence tous les samedis, c'était tous les jours, les pavés,
toutes les nuits,
les pavés qui sortaient, etc. Ça a été un mouvement violent, mais il n'y avait pas de haine. Et là, il y a de la haine. Et c'est sûr qu'il y a de la haine. On l'a vu samedi
c'est
dernier.
C'est quoi, Philippe Soler ? C'est une haine qui est entretenue ou c'est une.
Le diable. le 68, il n'y a aucun rapport. C'était un mouvement révolutionnaire où la plupart des dirigeants. Officiels ou occultes, étaient en général des gens très cultivés, très philosophiquement cultivés. La référence constante, c'était le surréalisme, les slogans de 68, vous les connaissez, etc. Rien à voir. Grève générale, formidable événement révolutionnaire recouvert ensuite de partout. Voilà. Mais là, ça n'a rien à voir. Il y a une sorte de misère concrète.
Mais justement, il faut dire que
sur laquelle je ne vais pas.
Mais 68... une misère sociale, mais aussi une misère intellectuelle.
Oui,
les deux.
Mais mai 68,
les
c'était
deux à la fois.
Mai 68, c'était les enfants un peu nantis des 30 glorieuses. Là, c'est les enfants de la crise. C'est les enfants de la crise.
La misère intellectuelle est profonde. Je ne vais pas vous la décrire. Et on voit très bien que par exemple, les Français se demandent. D'où peut venir l'antisémitisme aujourd'hui dans sa haine intégrale, Simone Veil, Alain Finkielkraut, etc. Je ne vais pas avoir le ridicule de défendre des académiciens français, puisque ce n'est pas du tout la place que j'occupe dans la société. Mais enfin, voyez le décalage par rapport au passé, qui est effrayant. Donc, si les Français se demandent d'où vient l'antisémitisme, eh ben, écoutez, il y a eu un pouvoir français qui l'a proclamé, décrété, légiféré pendant 4 ans, 5 ans. Et les Français étaient tout à fait d'accord avec ça. Donc, c'est drôle, on n'en parle jamais. Au contraire, vous avez des journalistes qui se prétendent intellectuels, Zemmour, par exemple, qui vous réhabilite doucement. Le maréchal Pétain, après tout, c'était pas si mal.
Il a sauvé des Juifs.
Voilà. Là, j'ai l'air de faire de la politique, mais en réalité, je vous décris ce qui est en cours, c'est-à-dire quelque chose de très, très, très violent. L'antisémitisme haineux dans la rue, le pauvre Finkielkraut, enfin, on le voit comme complètement...
Il a été très calme. Mais enfin, moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est que bon, les Gilets jaunes, ceux avec qui j'ai discuté samedi, mais c'était avant l'agression de Finkielkraut, je leur disais que c'était les fascistes qui étaient dans la rue, et ils me disaient que c'est une minorité. Bon, d'accord, mais de toute façon, il faudrait qu'ils se désolidarisent de cette minorité. Mais surtout, ce qui me trouble, c'est que quand on essaie de voir un peu s'ils ont une idéologie, parce qu'ils prétendent ne pas en avoir, mais ils en ont une. Qu'est-ce qu'ils détestent ? La banque ? Les élites ? Les étrangers ? Mais ça, c'est le terreau de l'antisémitisme pur.
Absolument. Et dès que vous précisez qu'il y a aussi et en même temps un très fort antisémitisme islamique...
Oui, en plus.
Voilà. Vous faites traiter d'islamophobe, etc. C'est d'ailleurs la gauche. C'est la gauche qui ne peut pas admettre qu'il y a convergence entre deux antisémitismes et que ce cocktail est absolument explosif.
Vous
l'avez vu dans la rue. Voilà.
Non, il ne s'agit pas de nier l'antisémitisme islamique. Bien entendu, il existe, mais quand même, les Français sont si, comment dire, hostiles à leurs compatriotes musulmans qu'ils ont tendance à trop élargir.
Enfin, peu importe. Il y a intellectuellement, la misère est totale. On parle de la misère sociale, le pouvoir d'achat, tout ça. C'est la misère intellectuelle et la misère spirituelle qui est tout à fait à l'ordre du jour.
Quand même, il y a eu un gilet jaune très cultivé qui a tagué un slogan de Lautréamont, beau comme une insurrection impure. C'était bien ça, non ?
Et il y en a eu un autre sur l'Arc de Triomphe. Qui c'était du Mao Tse-Tung, pur sucre.
On a raison de se révolter.
Voilà.
Mais ils, là, ils étaient vraiment
donc ce sont des ce sont des nostalgiques de l'ancienne époque, surréaliste, révolutionnaire. Mais bon, il y avait deux ou trois individus.
Mais ils sont très minoritaires.
Et là, il n'y a plus personne dans la foule que vous voyez.
Vous êtes, vous, donc, camarade de combat, et c'est cette conversation que vous entretenez et cette, j'allais dire, richesse, enrichissement mutuel, hein, intellectuel, c'est une façon, c'est l'antidote pour résister,
oui,
aujourd'hui.
Ah oui, absolument.
À cette misère intellectuelle, à, cette misère à ce mensonge social.
L'antidote, je veux dire, le premier des antidotes, et là, on est forcément d'accord, c'est la lecture. Si vous savez lire... Moi, je me rappelle que...
Alors, souvenir... lire et mémoriser, c'est ce et que vous dites, Philippe
voilà,
Solers.
C'est ça, voilà.
Il ne suffit pas de lire. Il faut se souvenir de ce qu'on a lu.
Il ne suffit pas de regarder les... Oui. Ça, parfois, on a l'impression que... Je vois des gens qui sont de très gros lecteurs. Et ils avalent, et j'ai l'impression que...
Il n'en reste rien.
Il n'en reste rien, ça coule.
Leur mémoire est lésée. À force de numériser, de digitaliser et d'être dans la communication, ils ne retiennent plus rien. Et derrière, c'est pour ça qu'il faut lire de la poésie, de la grande poésie. Baudelaire, par exemple.
Mais je veux dire que, contrairement à ce qui peut paraître, Philippe Solers adore la technologie, Wikipédia, etc., à condition que ce soit moi qui fasse les recherches.
Voilà.
prenez donc votre portable.
Vous m'aidez beaucoup à connaître l'adversaire. Et l'adversaire est très, très, très puissant et sans arrêt. Voilà.
Un type est venu m'interviewer, il était très intéressant, mais je ne me souviens pas de son prénom, je sais vaguement son nom. Alors, je sais qu'il s'intéressait à Michel Butor, donc je tape Nana, Michel Butor. Je dis voilà, il s'appelle comme ça.
Oui.
Vous parlez aussi de la société du spectacle. Alors, c'est pas nouveau hein, chez vous, Philippe Solers, mais on est en plein dedans, plus que jamais.
Le spectacle attendait son président.
Il l'a.
Il l'a. Il a été poussé là dans ce rôle qu'il assume de plus en plus d'une façon extrêmement spectaculaire, c'est le cas de le dire, puisqu'il est président du spectacle. Et donc le spectacle, ça consiste à être là tout le temps. Vous ne pouvez pas ouvrir une chaîne de télévision sans avoir les omniprésences du président du spectacle.
En bras de chemise.
Donc le président
de...
Voilà, la République s'est changée en spectacle. Voilà. Donc on a beau vous répéter tout le temps la République, la République, la République, la République, tout ça ne signifie pas grand-chose, on attend le prochain incident, c'est contraire aux valeurs de la République, mais je vous assure que tout est fait pour aller dans le sens des valeurs du spectacle. La preuve, c'est qu'il faut quand même, et là, il faut admirer la performance sportive du président du spectacle, parce que enfin, vous ne pouvez pas ouvrir la télévision. Il est là. Il parle d'un côté aux notables, aux maires. Il a enfin compris qu'il fallait parler aux maires, aller dans les territoires. Et d'autre part, vous avez les gilets jaunes. Alors là, ils sont... Vous avez... Prenez une chaîne en continu comme BFM. À gauche, vous avez le président du spectacle qui parle aux notables. Ils sont un peu âgés. Ils ont leur écharpe tricolore. Et ils sont dans peut-être de la Troisième République. On ne sait jamais. C'est ancien. Ils sont là quand même. Hein. Bon, alors il écoute d'abord comme un enfant à l'école, et puis après il enlève sa veste et en chemise il leur répond.
Ça avec dure... quelques citations quand même de philosophes et quelques écrivains.
En tout cas, bon, si me citer, ça m'inquiéterait. Bon, voilà.
Peut-être.
Non, il n'a pas lu La Société du spectacle. C'est
paradoxal parce qu'en même temps, vous dites, mais tous les deux, vous êtes d'accord sur cette société qui est soporifique. Enfin, on est dans une espèce de société voilà, où on s'ennuie, où on s'endort. C'est soporifique. Et en même temps, on est dans le spectacle.
C'est ça qui est intéressant. Plus vous êtes dans la réitération du spectacle, et plus vous dormez. En fait, tout le monde dort.
On endort.
Voilà, vous êtes endormi. Attendez, j'ai pas fini. Donc, à gauche, vous avez le président du spectacle qui parle aux notables. À droite, vous avez les gilets jaunes qui sont bordurés par les CRS dans le centre-ville où se trouve le président du spectacle. Les deux images sont extraordinairement intéressantes. D'un côté, vous avez les notables. De l'autre, vous avez les gueux.
On dirait du Molière.
Les gilets jaunes, voilà. Et il y a une femme qui pleure. Alors, on lui tend un micro et on dit « Pourquoi pleurez-vous en gilet jaune hein ?» Et elle dit d'une façon qui je vous assure, est bouleversante, mais en même temps comique, parce que vous êtes toujours dans le fou rire ou les larmes.
C'est le tragicomique.
Oui, le tragicomique, exactement, c'est la formule. Et donc, on lui demande pourquoi elle pleure, et elle répond sur un ton pathétique, « C'est parce qu'il ne veut pas nous voir !» En s'agissant du président Macron, du spectacle. Donc, elle pleure du fait qu'il se tienne à l'écart. Voyez-vous, donc, cette haine est une... Il faut que je reprenne le terme qui n'est pas de moi, mais brillantissime, de Jacques Lacan, psychanalyste célèbre, d'ailleurs très intéressé par l'Église catholique, on pourrait rester longtemps là-dessus. Et donc c'est la haine-amoration qu'il écrit, H-A-I-N-A, vous voyez, la haine-amoration. Donc le président du spectacle a été amoureusement élu dans son costume de Bonaparte, et maintenant il est haï comme quelqu'un qui serait absolument une sorte de SDF, certes avec des moyens d'État considérables. Donc passer de l'amour à la haine, vous voyez comme c'est rapide.
Je ne sais pas si on va passer de l'amour à la haine avec Nicole Croisi.
Oh, Nicole Croisi, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai, c'est pas très chanson, mais Nicole Croisi, c'est quand même, c'est pas que de la chanson, elle a fait du jazz aussi, c'est une belle voix, c'est une belle voix.
Allez, on l'écoute.
Radio Notre-Dame.
Femme, Nicole Croisi, Joseph Savigny, ça vous plaît?
Ah, c'était autrefois, c'était un film qui reste dans les souvenirs malgré tout. Je ne suis pas tellement adepte de la nostalgie, en tout cas, peut-être pas celle-là. Et puis, je ne sais pas ce que ça donnerait de le revoir maintenant, parce que je me souviens que j'avais été complètement fascinée par India Song de Marguerite Duras. J'avais vu au moins 3 fois. J'avais la jolie affiche avec le soleil qui est rouge dans ma chambre d'étudiant. Et puis, quand Marguerite Duras est morte, je l'ai revue à la télévision et j'ai été prise d'une crise d'hilarité absolument terrible. Parce que Delphine Seyrig, que j'aimais beaucoup par ailleurs, qui dit une phrase toutes les minutes, à peine, c'était bizarre. Je me suis dit qu'il y avait des emballements sociologiques parfois. Je voudrais revenir sur quelque chose quand Philippe Sellers dit les valeurs de la République, parce que ça c'est un peu un désaccord entre nous, parce que moi je crois aux valeurs de la République plutôt. Et puis il me moque toujours parce que je dis que j'ai un certain respect pour l'école républicaine d'autrefois.
celle qui m'a aidé à sortir d'où j'étais. C'est pas l'école républicaine qui m'a fait lire Simone de Beauvoir, cela dit, c'est une amie, mais qui était avec moi au lycée. Mais je crois que cette école républicaine a été très, très efficace pour certains, dont moi. Et surtout, je suis désolée de voir qu'elle ne fait plus son travail, que l'ascenseur social est bloqué. Et je pense que les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, ont beaucoup moins de et qui sont dans la situation sociale dans laquelle j'étais ont beaucoup moins de chances de faire
pourtant,
le parcours que j'ai fait.
On parle beaucoup de méritocratie.
Oui, on parle beaucoup de méritocratie, mais je la vois pas tellement.
Il y en a plus.
Ouais,
oui,
je la vois pas. Vous savez, c'est comme les correspondances entre écrivains, on en publie plus parce que maintenant il y en a plus.
C'est le temps qu'il faut, Philippe Soler, c'est ce que vous dites, et dans votre relation aussi, c'est le temps qui la construit, qui la consolide.
Oui. Où en êtes-vous avec le temps? Vous savez, c'est un mot célèbre d'un type étonnant qui a beaucoup fasciné les surréalistes, c'est Arthur Cravant. Arthur Cravant est allé voir André Gide. Et c'était plutôt un type anarchiste, révolutionnaire, Cravant. Oui. Et alors il va voir Gide, qui trouve très sage, comme ça. Et il commence son interview comme ça en disant « Monsieur Gide, où en sommes-nous avec le temps ?» C'est une question en effet profonde, métaphysique. Et Gide sort sa montre de son trousseau et lui dit « Il est 6h moins le quart ». Voilà, je crois que la plupart des gens croient que le temps, c'est le temps qui est en train de s'écouler.
Ça veut dire qu'il faudrait relire aussi Proust ?
Oh, mais le type qui retrouve le temps, il a droit à tous les éloges, oui. C'est ça, Proust, magnifique, sublime. Il fallait être juif et homosexuel pour comprendre le fond de la civilisation française. Donc c'est intéressant, on n'insiste pas assez là-dessus. Après ça, il fallait être doué, hyper doué, je veux citer son nom puisqu'il est maudit, pour être évidemment d'un antisémitisme radical comme Céline, qui a donc voltairisé la langue française. Mais c'est lui le coupable, puisqu'il avait du talent, alors que tout le monde était antisémite et n'avait pas de talent. Donc on ne pardonne pas. Sartre a dit une chose merveilleuse, on pardonne plus facilement une mauvaise action qu'une mauvaise parole. Vous voyez, ça va assez loin. Voilà, le temps, tout est là, bien sûr.
Mais à propos du temps, moi, je voudrais dire que dans la conversation qu'on a sur l'amour, Soler se parle des néologismes dont Dante est effrayant. Et ah oui. Il dit que pour que l'amour s'accomplisse, il faut savoir le toujouriser. Je trouve ça très beau, le toujouriser.
C'est bon.
Il invente de plus en plus de verbes. Dante, lorsqu'il est au paradis, figurez-vous qu'il est allé au paradis avec son corps. Hein. C'est un événement considérable. Donc, par exemple, oui, le verbe toujouriser ou encieler, s'encieler. Vous voyez, c'est pas mal. Voyez.
Comme des ennuyés, comme vous, voilà. Philippe Solers.
Voilà.
Tous les deux, évidemment, hommes et femmes, dans cette conversation infinie, et on le disait tout à l'heure, on est aujourd'hui dans une société alors, qui divise encore hommes et femmes. Et j'aimerais vous faire réagir, Josiane Servigno, mais comme on fait plusieurs de mes collègues, sur ces mouvements MeToo,
balance ton porc.
Vous êtes féministe, mais vous êtes contre ces mouvements.
Non, je ne suis pas exactement contre ces mouvements, je suis féministe. D'abord, il faut séparer MeToo et balance ton porc. MeToo a suscité des choses, une libération de la parole des femmes. Mais il y a eu évidemment beaucoup d'excès. Et surtout, à part dans un article dans Le Monde, je dois reconnaître, qui était très bien sur les femmes de la condition ouvrière, on a moins parlé, à mon avis, des vraies femmes harcelées, c'est-à-dire les femmes qui sont coincées par leur chef de rayon dans les vestiaires, qui gagnent le SMIC.
Qui n'ont pas les moyens de s'exprimer.
Gagnent le SMIC. Et si elles protestent, elles vont perdre leur boulot. Et comment elles vont nourrir les enfants? On a moins parlé de celles-là que de la petite nana bourgeoise qui s'est fait mettre la main sur la cuisse par un mec. Bon, Juliette Binoche a fait un entretien dans Le Monde très très bien sur le fait que quand on faisait ce métier, il fallait savoir résister à un certain nombre de choses. Donc ça, c'est l'affaire MeToo, mais balance port, pour moi, c'est encore bien pire parce que cette fille, cette Sandra Müller, dont j'ai lu le livre que je trouve absolument nul et surtout complètement égocentrique, ça. Cette Sandra Müller, un type s'est mal comporté, il était sous. Bon, ça arrive à des gens. Il a téléphoné le lendemain pour lui dire faire des excuses. Il a été correct. Et elle a fait balance ton porc et elle a détruit le type. Le type, sa femme est partie, il a perdu son boulot, sa fille est injuriée à l'école. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On peut pas être féministe et cautionner des choses pareilles. Donc je ne les cautionnerai pas.
Philippe Salers, vous en avez pensé de quoi ? Vous en avez pensé quoi de tout ça ?
Je suis surpris, parce que vous savez que j'ai écrit des livres quand même extrêmement sulfureux, hein, notamment un sur le Marquis de Sade, et puis Femme est un livre qui reste quand même dans les mémoires.
On sait combien les femmes sont importantes pour vous.
C'est mon best-seller. Eh bien, je suis un peu vexé, je dois dire. Enfin, pas une seule plainte à mon sujet. Je me suis demandé si je n'allais pas demander à une secrétaire de Gallimard que j'aime beaucoup de porter plainte, ne serait-ce que pour que ce soit démenti après, que ce soit...
Parce que vous savez vous comporter avec les femmes.
Il paraît, mais enfin, voyez,
non, je trouve
les hommes sont des... Les hommes ne savent pas... Enfin, il est incroyable que des hommes croient pouvoir monter...
Parce que vous leur devez tant
à...
aux femmes aussi.
Comment ?
Vous leur devez tant aux femmes.
Mais je ne sais pas, en général, je m'aperçois... Peut-être que je suis harcelé, d'ailleurs, après tout.
Allez. Non, Josiane Savigno.
Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué là, récemment, c'est cette ligue du LOL. Ça, c'est quand même incroyable. La ligue du LOL, c'est-à-dire ces journalistes bien pensants, qui étaient donneurs de leçons d'un côté et qui harcelaient leurs voisines de bureau.
Comme les cardinaux homophobes qui sont homosexuels. Alors, nous sommes dans ce genre de problème. C'est-à-dire que je suis comme ça en principe et ne suis pas comme ça.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ?
Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là ? Le diable, vous dis-je.
L'ennui.
Je pense l'ennui.
Oui,
je pense qu'au départ,
l'ennui, c'est le diable.
Au départ, ce qu'il faut voir, c'est ces jeunes gens de la Ligue du LOL. Ils étaient des précurseurs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils font partie des gens qui ont découvert Twitter avant que ça devienne. Et ça les a amusés. Et ils sont partis un peu. Sur manière de gag, je crois.
C'est un peu comme le mur des cons.
Ouais, et ils n'ont pas vu que ça commence à dégénérer, quoi. Ils n'ont pas vu comment ça dégénérait. Enfin, mais après, leurs excuses sont pathétiques, quoi. Le type qui dit c'est terrible, je ne me suis pas aperçu que je faisais partie des bourreaux.
Sympathique.
Enfin, ils ont été mis à pied, sauf à Télérama.
Oui, je ne sais pas.
Qui est une officine catholique, non, je ne sais plus.
Non,
non.
En tout cas, j'insiste sur le fait que c'est plutôt des médias de gauche.
Libération, notamment, sans le nommer.
Les Inoccupibles, etc. Ce genre de trucs, oui. Donc, c'est pareil. C'est là où ça ne devrait pas se passer que ça se passe.
Comment sortir de tout ça, Philippe Salers, Josiane Savigno ? Comment sortir de cette France que vous qualifiez de... Alors, on avait la France moisie il y a quelques années. Maintenant, on a la France liquéfiée.
Oui.
Comment s'en sortir ?
Eh bien, écoutez, il faut se sentir extérieur à ce pays en le connaissant à fond. Voilà. Il faut renforcer, encore une fois, sa vie privée, sa singularité. Je propose à absolument rien d'autre que ça. Donc, je suis dans la stricte observance évangélique et je dis...
On y revient.
Eh oui. Et je dis, comme l'a dit en effet le principal personnage, chercher la vérité, et la vérité vous rendra libre.
Mais dans un livre de Solaire, je ne sais plus lequel, donc il va évidemment me tacler, j'avais été frappée par une phrase que je ne vais pas citer exactement, parce que je ne me souviens plus de la citation exacte, mais il disait ça, en effet, c'est « Chacun sera sauvé par son propre destin secret, privé ».
Il y a des enjeux au niveau de l'existence, quand même, il y a des enjeux. On peut pas s'extirper, aller sur son île déserte, continuer à converser entre soi et sans prendre part à ces enjeux collectifs.
Mon âme éternelle, observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc, tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. Qui tutoie son âme dans ce poème magnifique ? Écoutez, c'est Monsieur Arthur Rimbaud qui ose tutoyer son âme. C'est pas rien. Son âme éternelle. Soit, alors, quand vous parlez d'enjeu, en voilà. Qu'est-ce que vous faites de votre âme éternelle ? Et si vous la faites voler selon, en échappant aux humains suffrages et aux communs élans, au lieu de vous précipiter pour dire n'importe quoi sur la politique, les élections, et ceci, et cela, vous sauvez éventuellement, vous sauvez votre âme. Et c'est pas rien, je vous assure.
Moi, Josiane Savigno.
Moi, je ne sais pas si je vais sauver mon âme, mais moi, je suis plus, comment dire, engagée.
Ah, c'est Rimbaud qui parle
de... J'aime pas beaucoup le mot engagée, mais enfin, moi, je suis plus militante, peut-être, que ouais. Philippe Solers, politiquement. Comme je dis toujours en riant, je suis de gauche.
Ça veut dire quoi, être de gauche, aujourd'hui?
Ça veut dire ne pas être de droite, pour moi. C'est tout.
Mais encore.
Mais encore, mais
militante ça... pourquoi
eh ben, pour
dire,
qui ça veut dire croire à certaines. À certaines... Bah, vous, militante pour la gauche en ce moment, c'est très difficile. Ça. C'est très, très difficile.
Contre les mensonges sociaux, quels
qu'ils
soient.
C'est ça, le fameux mensonge social.
Mais oui, oui, voilà. Bon, contre... Chacun l'aborde de son point de vue. Moi, j'ai...
Les mensonges sociaux. Parce que oui. Tout à l'heure, on parlait des valeurs de la République. Même si elles sont bien malmenées, je crois qu'il y a quand même des valeurs de la gauche et des valeurs de la droite. Je pense que si on a les valeurs de la gauche, on est contre la peine de mort, par exemple, déjà. Et on ne tient pas les propos que j'ai entendus hier à la radio par un type qui, heureusement, a été contré par une femme qui a dit simplement à propos de la mort du djihadiste, bon débarras. Heureusement, l'avocat des victimes a dit, nous, on aurait préféré... savoir, le voir, comprendre. C'est-à-dire, on ne peut pas dire bon, bon débarras parce qu'on a exterminé un type avec un drone. Non, on peut pas. Ça, ce n'est pas une valeur de gauche pour moi de dire ça. Bon débarras, c'est une valeur de droite. C'est hop, allez, retour de la peine de mort.
Cette liberté, on l'a toujours, Philippe Solers. Il faut la cultiver, il faut la renforcer plus que jamais.
Renforcer vos points forts, pas vos points faibles. Renforcer votre âme éternelle.
Est-ce qu'on a le droit encore à cette liberté?
Mais ce n'est pas une question de droit. Vous n'êtes pas dans un droit. La déclaration des droits de l'homme sous les auspices de Dieu. Oui, l'être suprême. D'accord. C'est pas, personne ne vous a dit que vous aviez droit à une âme éternelle. Sauf quelques-uns qui vous l'ont dit. Qu'est-ce que deviennent ceux qui ont voulu fonder des communautés religieuses à propos de cette déclaration sensationnelle de votre âme éternelle? Vous savez, c'est voilà le problème, puisque tout s'effondre. Donc, on parlait du diable. Je vous rappelle que, vous parlez n'importe Saint Matthieu, n'importe qui, le premier personnage qui se présente en présence du Christ, c'est le diable. Et c'est le diable avec les tentations au désert, vous savez.
Hein, des 40 jours au désert.
Oui. Et la faim. Alors, on n'a qu'à dire au pire de se changer en pain. Je t'emmène en haut du temple, mais je te propose... Puis alors, tu vas te jeter, on verra bien si tu es le fils de Dieu, etc. Voilà. Donc, c'est le diable apparaît tout de suite. Hein ? Eh bien, de nos jours, il n'y a plus ce genre de scène qu'il faut méditer, d'ailleurs, parce qu'il s'agit de la faim, il s'agit du suicide, et il s'agit de la richesse.
Des mondes actuels de la société.
Voilà, c'est ça. Donc, l'homme ne se nourrit pas seulement que de pain et de toute parole. Voilà, j'ai fini mon sermon. C'était beau, à Radio Notre-Dame.
Alors, cette conversation infinie va se poursuivre.
On a fini. Moi, je voudrais finir sur un mot de mon ami Philippe Roth, qui va un peu agacer Solers, parce que mon amour pour Philippe Roth l'agace.
Ils avaient été un peu... C'est son autre Philippe.
Ils étaient un peu jaloux, tous les deux. Et un jour, il était avec son ami Norman Manéa, et il s'est mis à sautiller en disant « Je suis éternel, je suis éternel, je suis éternel.
Voilà. » C'est vrai. On est tous éternels. Et puis, le nouveau à sortir, évidemment.
Le 7 mars.
Le petit bébé, non. Le dernier.
Le 7 mars.
Le nouveau, 7 mars, aux éditions, évidemment.
Gallimard.
Merci infiniment pour cette conversation.
Merci à vous.
Infini, c'était un plaisir.